Et vous êtes toujours sur le 102.2 Radio Canu. C'est le Canu Info du lundi 1er avril qui est toujours en direct de la semaine du feu à l'annexe. On est en plein milieu du bûcher et on passe tout de suite à notre dossier de la semaine, évidemment consacré au logement. Et on commence par un petit retour sur la belle manif de ce samedi.
Et donc on va vous passer un petit reportage qu'on a fait puisque nous étions à la manifestation de ce samedi 30 mars. Pour rappel donc, il y avait une manifestation qui était appelée par différents collectifs qui revendiquaient notamment le droit au logement pour tous et toutes, la fin des expulsions et lutter contre la fin de la trêve hivernale. Associée à cette manifestation, l'interfanfare du SBEUL menée par la glorieuse fanfare à manif, entre autres. Plusieurs centaines de personnes ont répondu à l'appel. En voici un petit florilège d'extraits et après on passera donc à l'interview du DAL 69.
Pourquoi cette manif ? Parce que le 31 mars, c'est la fin de la trêve hivernale. C'est la période de répit pour les personnes précaires face au logement.
En 2022, près de 40 000 locataires sont mis en dehors alors que l'inflation explose. Parce qu'au moins 18 000 logements vacants sont dans la métropole de Lyon et aucune solution proposée par la préfecture, les métropoles ou les mairies. Parce que depuis juin 2023 à Lyon, des centaines de personnes vivant en squat ont été remises à la rue. Pourquoi lutter contre la détérioration de l'hébergement d'urgence ? Parce que le 115 n'a jamais été aussi saturé. À Lyon, près de 1200 personnes appellent chaque jour et se voient refuser une mise à l'abri. 331 enfants sont sans toit sur les territoires de la métropole. Pourquoi contre les lois racistes et classistes ? Parce que la loi anti-squat Casbarian-Berger de 2023 renforce les droits des propriétaires face aux locataires précaires. Parce que la loi Darmanin de décembre 2023 remet en cause l'inconditionnalité de l'accueil. Pourquoi contre la gentrification ? Parce que Airbnb profite de niches fiscales existantes et fait grimper les prix et limite l'offre locative de longue durée. Parce que les pouvoirs publics à Lyon veulent faire disparaître du centre-ville les classes les plus précaires. Donc nos revendications face à cette politique indécente et meurtrière, une solution, la réquisition des lieux vacants. Abrogation des lois Casbarian, Darmanin et de toutes les lois liberticides. Un toit, c'est un droit.
Sous les tentes dans les campements. Après la manifestation qui s'est tenue le 12 mars 2024 à la métropole, nous voilà encore aujourd'hui le 30 mars 2024 dans les rues à manifester car notre situation ne s'est toujours pas améliorée. Et nous sommes à la merci de certains dangers comme la maladie, le froid, les réseaux de drogue, de prostitution et de criminalité, ensuite de violences policières. Tout ce que nous demandons, c'est de pouvoir bénéficier de même droits qui sont les prises en charge médicales, logement, aller à l'école afin d'avoir des diplômes et travailler plus tard. Aussi servir la France car nous sommes reconnaissants de l'aide de certaines associations qui nous ont aidés avec le peu qu'ils ont. Nous devons aussi être polis puis s'intégrer aux différentes lois de la France. Mais malheureusement, nous sommes mal compris et délaissés. Méritons-nous pas aussi d'être traités comme les autres ? Quand même, nous sommes des êtres humains. C'est vraiment dommage. Nous sommes des enfants en danger et surtout en manque de compagnie. Certains d'entre nous arrivent à leur fin. Suite à des maladies, se fassent emporter par des grands réseaux de trafic. Et d'autres finissent par des dépressions et finissent dans l'alcool. Voici la raison de notre présence aujourd'hui dans les rues de Lyon, car nous exigeons avoir une réponse concrète et pérenne dans les plus brefs délais. Merci de nous aider. Liberté, égalité et fraternité pour nous aussi.
Nous allons vous montrer l'exemple, comment on vit là dans l'entraide. Tenez, voici le manuel squat de A à Z. Désolé, mais je suis tombée dans un grand trou noir infini, et infini à 100 millions du dessous. Je reste assise seule à genoux en répétant ça va, ça va, ça va.
Avec lequel jouer pour gagner plus d'argent. C'est injuste de laisser des logements vides pour faire gonfler les prix des loyers. C'est injuste que la plupart de nos revenus partent dans des loyers quand on galère à arriver à la fin du mois. C'est injuste que dans certains quartiers touchés par des rénovations, les familles sont obligées de partir sous menace d'expulsion parce que les nouveaux quartiers ne sont pas pensés pour eux, mais pour des ménages avec des revenus beaucoup plus élevés. C'est injuste de penser qu'il y a des lois qui criminalisent ceux et celles qui essayent de survivre et d'avoir un toit sur la tête. On est encore là pour dire qu'on ne va pas s'arrêter. Nous allons descendre encore, encore et encore dans la rue pour dire qu'un logement digne et stable pour tous et toutes est un moyen fondamental et nécessaire à l'existence. Qu'un logement digne et stable est un droit fondamental. Et pour que tout le monde puisse accéder à ce droit, nous exigeons la réquisition des bâtiments vides. Nous exigeons la baisse des loyers, nous exigeons l'augmentation des logements sociaux et l'arrêt des expulsions.
En squat expulsés, liste réouverte. En squat expulsés, liste réouverte. En squat expulsés, liste réouverte. En squat expulsés, liste réouverte.
Et c'est toujours le Canu Info en direct de l'annexe de l'ECG. Après ce petit reportage sur la manif de samedi, on passe à nos invités.
Et donc l'interview du DAL 69 ce soir avec Alan, Aimé et Nino. Merci d'être là pour nous parler un petit peu de ce qui se passe en ce moment.
Salut.
Est-ce que vous pouvez d'abord commencer par nous présenter le collectif DAL 69 ?
Alors le collectif DAL 69, c'est un collectif de droit au logement à Lyon. Donc en ce moment, on mène une campagne anti-expulsion, mais de façon plus large, on lutte contre tous les problèmes relatifs au mal-logement. Donc ça peut être l'augmentation abusive des charges, les problèmes de logement insalubre, voilà. On lutte pour que tout le monde ait accès à un logement stable, décent et avec un loyer abordable. Donc récemment, on a mené plusieurs actions. Il y a 40 personnes aux 12 rues Chardonnay à Vaulx-en-Velin-la-Soie qui ont été victimes d'un marchand de sommeil et qui ont été expulsées en début février sans proposition de relogement décent. Donc on a essayé de contacter ces personnes. Elles sont ensuite venues à notre permanence du mercredi et on s'est rendu donc dans la semaine dans leurs hébergements provisoires. Donc c'était pour certaines personnes des hôtels et pour d'autres personnes des locations Airbnb. Donc il faut savoir que dans les personnes qui ont été expulsées, on avait des familles avec enfants. On avait des personnes avec des problèmes de santé à qui on n'a même pas fait de proposition d'hébergement d'urgence. Donc on a beaucoup, vu que c'était une situation d'urgence en fait, on a pendant cette période beaucoup échangé avec la métropole. Donc eux, ils mettaient en avant le concept de mise à l'abri. Donc l'idée de la mise à l'abri, ça les protège un peu puisque ça leur permet d'héberger très très provisoirement des personnes et ensuite de les remettre à la rue. Et la métropole a tendance à se dédouaner et à déclarer que ce n'est pas dans ses prérogatives. Donc en fait, on s'est vraiment heurté à ça, à la métropole et à la préfecture qui se renvoyaient à la balle par rapport à la condition de ces personnes. Donc ensuite, on s'est organisé collectivement. On a organisé en fin de semaine une assemblée où une trentaine de personnes sont venues touchées par des problématiques communes. Et le lundi, on a organisé une assemblée. Un rassemblement devant le siège de la métropole. Donc, suite aux mobilisations collectives, certaines personnes ont réussi à trouver une place en centre d'hébergement et notamment une famille avec enfants a eu une proposition de relogement. Récemment également, on a mené en réponse à l'appel de la Coalition européenne d'action pour le droit au logement une campagne contre le MIPIM, donc, qui est le marché international des professionnels de l'immobilier, qui se tient chaque année à Cannes du 12 au 15 mars. Et donc, il faut savoir que c'est 25 à 30 000 personnes qui décident à la place des habitantes des futurs projets d'urbanisme et notamment de rénovation urbaine dont on va parler après. Et ce sont donc des personnes qui participent à la spéculation immobilière et à la privatisation des villes et qui donc fabriquent de la précarité. Donc au MIPIM, on a des représentants de banques, des agences immobilières, les compagnies d'assurance, les promoteurs immobiliers et surtout les collectivités publiques. Dans la continuité de Gérard Collomb, Grégory Doucet, le maire de Lyon, Bruno Bernard, le président de la métropole du Grand Lyon, ou encore Anne Warsmann, qui est la présidente des associations des bailleurs sociaux du Rhône, se sont rendus pour vendre le foncier commun. Et donc, il faut savoir que tout le monde ne peut pas se rendre au MIPIM puisque un simple pass visiteur coûte 2 200 €. Donc on peut également dire que c'est du gaspillage d'argent public. Voilà. Donc suite à ça, nous à Lyon, on a décidé d'organiser un rassemblement, mais surtout en fait d'envahir les bureaux d'Aderly Only Lyon. Voilà. Et on s'est mobilisé contre ça. Et plus, de façon beaucoup plus importante, en ce moment, on mène une lutte au quartier de la Duchère. Donc le quartier de la Duchère, qui est situé au 9e arrondissement de Lyon, c'est un éco-quartier depuis 2014 et c'est aussi un quartier prioritaire. Et c'est pour ça que les bailleurs sociaux, ils mettent vraiment le focus sur ce quartier. Donc il y a des projets de rénovation urbaine, il y a des immeubles qui vont être rénovés et il y a des parties d'immeubles qui sont détruites. Il y a des immeubles qui ont déjà été détruits, il y en a d'autres qui ont prévu d'être détruits d'ici 2025. Donc ça laisse encore un an et demi de marge, mais déjà des personnes sont expulsées, donc des personnes habitant en squat, et on fait des propositions de relogement à des locataires. Il faut savoir que les habitants sont habitués à l'arbitraire urbain, c'est-à-dire que ça, c'est pas nouveau. Il y a des personnes qu'on a rencontrées, notamment une vieille dame qui nous disait que déjà 5 ans plus tôt, elle avait dû déménager. Et aujourd'hui, dû à des problèmes de santé, une mauvaise condition physique, elle peut pas partir. C'est très compliqué et c'est un petit peu absurde d'une certaine manière puisque faut se dire que si il nous reste encore un an et demi avant que ces bâtiments soient détruits, pourquoi déjà les personnes sont expulsées, des personnes qui n'ont pas d'autre endroit où aller? Dans les squatteurs, encore une fois, on a des familles avec enfants. Alan pourra nous parler un peu plus tard des dispositifs qui sont mis en place par les bailleurs pour faire partir les habitants dès eux-mêmes. Et d'un autre côté, ces bailleurs sociaux vont créer des projets vitrines. On a un exemple très clair au quartier du Château. Il y a un tiers-lieu qui s'appelle La Duchesse, qui a été missionné par le bailleur social LMH, donc Lyon Métropole Habitat. En fait, le quartier, il fait un peu office de laboratoire pour le futur des rénovations urbaines, le futur des politiques publiques. Et donc, dans ce tiers-lieu, il y a principalement des urbanistes. C'est un projet d'urbanisme transitoire. Ça veut dire que dans 5 ans, bah, moins de 5 ans maintenant, mais à la base, il était censé être là pour 5 ans, bah, c'est fini. Pendant que les habitants partent. Donc la barre 110 qui est située juste en face de la Duchesse, il ne reste plus que 99 logements sur 294 qui sont encore occupés. Donc ça n'a plus vraiment de sens. Par exemple, ce qui a été créé pour créer du dialogue social avec les habitants, il y a eu également un conseil des citoyens. Mais parmi les citoyens qui étaient originellement présents dans ce conseil, la plupart aujourd'hui ont eu des propositions de relogement et ne sont même plus présents au quartier du château. Donc cette volonté de créer du dialogue social, elle est peut-être un peu artificielle. Voilà. Au final, il y a une volonté apparente de la part des bailleurs sociaux. On voit bien de créer de la mixité sociale, mais c'est un petit peu un terme en porte-pièce, puisque cette mixité sociale, ça veut aussi dire qu'il y a 80% des logements sociaux. On passe de 80% de logements sociaux à 30% de logements dans le projet de rénovation. Donc on peut se poser la question, où vont les personnes sans proposition de relogement, et quelles sont-elles ces propositions de relogement? Est-ce qu'elles correspondent véritablement aux attentes des habitantes?
Oui, du coup, on se demande effectivement où vont ces personnes. En fait, les personnes qui restent dans ces immeubles, ce sont souvent les familles nombreuses, pour lesquels il faut des appartements plus grands, des T4, T5, T6, ou des personnes âgées. Les propositions qu'ils se voient faire ces familles sont très souvent inadaptées. On a l'exemple d'une famille de 7 personnes avec une personne qui a des problèmes de mobilité, qui ne peut pas monter les escaliers, qui se voit proposer un T4 au 4e étage sans ascenseur. Donc tout ça, pour les habitants et habitantes, c'est simplement du mépris de la part du bailleur. Et ça fait partie de tout un tas de techniques que les bailleurs ils utilisent pour faire partir les gens d'eux-mêmes. Ça va de plus entretenir les bâtiments, ce qui permet la venue des rongeurs et des cafards, jusqu'à faire exploser les charges avec l'excuse que comme il y a moins d'habitants, le coût de l'entretien reste le même, mais doit être augmenté par habitant. Et toutes ces actions que les bailleurs ils font, c'est fait pour épuiser les habitants et habitantes, pour qu'ils attendent pas les propositions de relogement adaptées, et ils partent d'eux-mêmes en trouvant des solutions inadaptées et non décentes à droite à gauche.
Excusez-nous, petit intermède technique. Du coup, vous vouliez revenir aussi un petit peu sur la loi Kasbarian.
En gros, la loi Kasbarian, elle est rentrée en vigueur le 29 juillet 2023. Entre-temps, il y a eu la trêve hivernale, du coup, on n'a pas encore beaucoup de recul sur les effets de la loi ni sur son application. Mais bon, je vais essayer de vous expliquer rapidement ce qu'il faut savoir sur les changements législatifs. En ce qui concerne les expulsions locatives, donc expulsion pour impayé de loyer ou expulsion pour congé, vente, reprise ou motif légitime et sérieux, une fois que le proprio demande une expulsion, on va avoir une assignation au tribunal. Pour cette assignation-là, avant, il y avait un délai qu'on avait avant la date d'audience où le locataire pouvait se défendre, trouver des manières de faire des démarches pour régler ses impayés, faire une demande HLM, une demande au fonds de solidarité pour le logement, une demande d'échéancier, par exemple. Donc ce délai-là, avant, il était de 2 mois. Depuis la loi Kasbarian-Berger, il est passé à 6 semaines. C'est un délai qui est vraiment beaucoup trop court pour faire les démarches. Donc on imagine qu'il y aura beaucoup plus de locataires qui vont avoir des jugements d'expulsion et donc risquer de se retrouver à la rue. Un autre changement qui est emmené par la loi Kasbarian-Berger, c'est que les personnes expulsables pouvaient demander au juge un autre délai pour payer la dette, qui était compris entre 3 mois et 3 ans, qui était compris avant entre 1 mois et 1 an. Aujourd'hui, il passe... Non, c'est ça, j'avais raison. Donc avant, il était entre 3 mois et 3 ans et maintenant, il est passé de 1 mois à 1 an. Donc c'est encore une fois des délais qui diminuent et c'est assez compliqué. Le dernier gros changement aussi en ce qui concerne les expulsions locatives, c'est la criminalisation des locataires expulsables qui risquent une amende de 7 500 € s'ils se maintiennent dans le logement. Alors même que cette loi complique énormément la possibilité pour les habitants et habitantes de régler leurs dettes ou de trouver un autre logement. Donc on demande à des gens déjà précaires de payer des amendes alors qu'ils n'arrivent pas à payer leur loyer. C'est une loi qui vient donc entretenir la précarité et continuer de reproduire l'ordre social, quoi.
Et du coup, avant de revenir plus précisément sur les expulsions et donc les mobilisations à venir dans le quartier de la Duchère, vous allez nous en parler. C'est quoi, du coup, les armes des locataires pour lutter, pour s'organiser, pour se défendre surtout ?
Alors, du coup, pour ce qui concerne les armes dans l'arsenal des locataires pour se défendre face aux propriétaires, il existe deux dispositifs. Un dispositif, il s'agit d'une expérimentation sur certaines métropoles, dont celle de Lyon. C'est celle de l'encadrement des loyers, qui du coup consiste à limiter la somme de loyer qui peut être demandée à des locataires. Et du coup, ce dispositif peut être mis en place à travers une simulation sur Internet qui permet un signalement. Et un autre dispositif est celle du gel des loyers qui a été mis en place en 2022. Il s'appuie sur le diagnostic de performance énergétique. Du coup, pour les appartements classés F ou G, les loyers peuvent pas être augmentés par le propriétaire du fait de la faible performance énergétique. Nous, au DAL, on trouve que ces dispositifs sont défaillants car déjà, ils amènent peu de contraintes pour les propriétaires. Et ensuite, la charge reste toujours aux locataires et du signalement et des démarches à faire. Ces démarches sont très souvent compliquées et mal expliquées, par les pouvoirs publics. Du coup, au DAL, nous, on considère que la meilleure arme des locataires, ça reste la lutte collective. C'est vrai qu'il y a une certaine honte relative au problème de logement. On a un peu honte de dire qu'on n'arrive plus à payer son loyer. On a un peu honte de dire qu'on a des parasites, des rongeurs, etc. Chez nous. Mais en fait, en parlant avec ses voisins, on se rend compte qu'on a tous les mêmes problèmes. Et ensemble, on peut faire front face aux propriétaires. Et unis, on est plus fort et plus forte.
Alors peut-être pour terminer cette interview, est-ce que vous pourriez revenir sur les expulsions à la Duchère dont on a déjà parlé un petit peu tout à l'heure et des prochaines dates de mobilisation, car je crois qu'il y en a à venir.
Du coup, on a eu une première démonstration pratique de la loi Kasbarian à la Duchère le 18 mars. Où deux appartements squattés de propriété Grand Lyon Habitat ont été expulsés. Et c'était deux appartements qui se trouvaient dans un bâtiment qui est voué à être démoli. Du coup, la question qu'on voudrait poser à Grand Lyon Habitat, c'est quoi l'urgence de vider deux appartements qui, dans tous les cas, vont être démolis, du coup, ne peuvent pas être loués entre-temps. Elle est où l'urgence, en fait ? Et Grand Lyon Habitat ne s'arrête pas là, parce que là, c'est deux familles qui risquent de se retrouver à la rue. Du coup, ces deux familles aussi ont occupé des appartements vides dans ces immeubles qui se vident de plus en plus vu le contexte de démolition. Et là aussi, on ne comprend pas c'est quoi l'urgence que le bailleur trouve de mettre à la rue des familles alors que les appartements vont rester vides. Et on pourra leur demander lors du 3 avril devant le siège de Grand Lyon Habitat place Francfort derrière la Part-Dieu à 9h. En fait, on aura un rendez-vous avec Grand Lyon Habitat pour discuter de la situation de ces familles. Du coup, on invite tout le monde à venir soutenir ces familles. Pour nous, la vraie urgence, c'est l'entretien des bâtiments, c'est proposer un plan de relogement adapté pour les familles et tout simplement penser des projets de rénovation urbaine à l'écoute des habitants selon leurs besoins et leurs envies.
Merci beaucoup pour cette petite interview. Donc, rassemblement le 3 avril à 9h. On rappelle qu'il y a également un rassemblement mercredi à 12h30 pour demander la libération de Mustapha. Ça se passe devant la préfecture. Donc, on vous invite à rester mobilisés ce mercredi. Avant de passer à l'agenda, on va d'ailleurs accueillir de nouveau des membres du collectif ECG. On vous propose un petit interlude et puis on vous retrouve juste après pour l'agenda.
Le point de rendez-vous est une rue ensommeillée située quelque part dans la banlieue de Caen. L'opération a été minutieusement préparée. Les itinéraires choisis évitent les caméras de surveillance et l'adresse sera tenue secrète jusqu'au tout dernier moment.
Là, on est en route, c'est parti. On va prendre deux maisons publiques qui se situent juste à côté du Pegasus Bridge.
Ça fait longtemps que vous les avez repérées ?
Là, ça fait plusieurs mois qu'elles sont repérées, effectivement. Et en plus de ça, c'est des maisons qui sont placardées. Donc on sait très bien qu'elles sont inhabitées et qu'elles vont être maintenues vides pendant longtemps.
Que la loi va être durcie pour les squatteurs. Mathieu, tu dis non, tu n'es pas d'accord.
Mais déjà, c'est horrible. On est en train d'assimiler en fait SDF à des personnes. On va créer des SDF si on empêche des personnes de voler le bien des personnes qui ont travaillé pour avoir ce bien.
La loi vous dit qu'il faut une autorisation de justice pour expulser quelqu'un du logement qu'il habite. Une fois que vous êtes propriétaire, pour éviter d'être squatté, il faut mettre un système d'alarme. Il faut visiter régulièrement le bien.
C'est pas aux personnes qui ont payé toute leur vie pour avoir pendant 20 ans une hypothèque pour s'acheter un appartement de faire en sorte qu'il n'y ait plus d'SDF dans la rue.
Les membres du collectif entrent sans effraction. Comment se sont-ils procurés les clés ? Mystère.
Je voudrais quand même préciser, parce que ce dont vous parlez, c'est pas de ça dont parlent les guides du squat. Et je voudrais quand même vous en lire quelques extraits qui sont assez inacceptables. C'est pas pour aller squatter des grandes foncières. C'est pour aller squatter des résidences secondaires, des résidences secondaires. Je vous cite quelques exemples pour quand même illustrer ça. Page 6, bien choisir son propriétaire. Guide du squat de A à Z, qui est richement illustré. Bien sûr,